Bonsoir, salut a tutti i passionati. Ecco a vostra stonda d'Urchino, una stonda che noi abbiamo da abbastanza facci male stasera, perché che lo giuro a parlare di Monaco e di sto 5-0. Bonsoir, buonasera. Ils avaient la Sainte Dévote, on n'avait pas le Saint-Maximin. La foudre est tombée sur le Louis II, le rocher sur la cabane bastiaise. Évidemment, ça fait mal à la tête. Pourtant, et ce n'est pas paradoxal pour ceux qui ont bien vu et bien analysé ce match, tout n'est pas si négatif malgré le résultat. Dans le jeu, Bastia va mieux en même temps que l'infirmerie se vide. Reste que la défaite est là, que la différence de but s'est alourdie, que le SCB occupe seul la place de barragiste après 16 journées et qu'il ne gagne plus depuis fin septembre. Une série négative qui met une pression particulière sur le match contre Metz samedi prochain. Nous en parlons avec nos journalistes, nos consultants, mais aussi nos invités. Et ce soir, il était intéressant de retrouver à quelques jours de la fin des matchs allés et de la trêve, les dirigeants bastiais Pierre-Marie Geronimi et Joe Franceschini, président et vice-président du club. Et avant de retrouver nos invités et nos consultants, notre question du jour, évidemment, la Emudetta, un nostro yogo, di Nadal e Ghisabigina, ce soir, la panoplie du supporter du SCB en cadeau. Si vous répondez à cette question, quel est le dernier résultat positif enregistré par le SCB à Monaco? Nous, on efface le 5-0, hein, on reste sur le positif de Monaco. Si vous avez cette réponse, donc la dernière perf du Sporting au Louis II, appelez-nous au 04 95 32 22 22. Pour l'instant, place au débrief de ce match.
Stonda d'Urchina, au contraste.
Et puis, contraste stasera in con noi dans nos studios, le technicien. On en a besoin pour décortiquer le jeu. Laurent Vincenzi, ni foot et basta, France 3 Corse, bonsoir. Un défenseur, on en a besoin aussi pour relancer l'analyse. Ismaël Tricky, bonsoir.
Bonsoir.
Et pour poursuivre notre ouverture dans cette émission à la société civile, et comme on dit, aux supporters du Sporting Club de Bastia, un passionné aussi, un ex-joueur du Sporting, amateur au SCB, Georges Ristigoni, bonsoir.
Bonsoir Jean.
Baptisé aussi, mais ça il n'y a que nous qui le savons, l'ex-petit prince de Routali.
Merci, sympa.
Messieurs, merci d'être avec nous pour cette émission. D'abord, vous demandez si vous aussi, vous avez eu besoin de faire le gant après le match de Monaco ou pas. Comment on se réveille de ça? Comment on sort de ce match-là? Laurent, allez, l'habitué.
Un peu des faire le gant, mais pas vitaminé, allez. Normal. Non, au-delà de la magagne, je pense pas que le staff technique et même les supporters aient coché des points à l'occasion de ce match de déplacement en principauté.
Pour l'auto, vous parlez, hein,
pas. Voilà, d'accord. Non, mais même dans le tableau de marche, au-delà des paris. Donc, c'est pas non plus une grande surprise. En face, il y avait la meilleure attaque d'Europe en termes de chiffres. La moyenne, c'était 4 buts. Ouais.
C'était à 44 buts, là, voilà. Ils en ont mis 5 de plus.
À Louis II, c'était la moyenne, c'était 4 buts. Donc, moi, le résultat, quand on le regarde comme ça, stricto sensu, ça fait mal. Hein. 5-0, ça fait lourd. Mais après, il y a des circonstances. 2 buts en 2 minutes, 3 en 13 minutes. Donc, il y a une cascade comme ça d'événements, de faits qui plongent le Sporting Club de Bastia dans le trou, quoi, à un moment donné. Donc, on le sait tous, nous qui avons joué à différents niveaux, quand on joue au foot, quand on en prend 1, 2, 3, après on plonge.
Quand on est dans un tourbillon comme ça,
on sait plus trop. Voilà, exactement. On sait plus. Il n'y a plus vraiment de solution et tout le monde recule, personne n'attaque plus le ballon. Donc, c'est cet enchaînement-là. Après, il y a le but sur corner, ça me gêne un peu. Il y a deux, trois situations qui me gênent un petit peu plus. Et là, ça reste un petit peu en travers de la gorge. C'est-à-dire que, à un moment donné, le Sporting Club de Bastia a lâché et dans sa situation, c'est pas trop admissible. Mais, encore une fois, il y a des circonstances.
Oui. Ismaël Tricky, le moment où Bastia lâche, c'est quoi? C'est après, évidemment, deux buts en une minute. Et encore, il y a une possibilité avec un poteau de revenir à 3-1, le poteau de Langis. Au lieu de ça, au lieu du 3-1, on se trouve à 4.
Exactement. C'est vrai que 5-5, ça fait lourd. Et comme disait Laurent, l'analyse est bonne. C'est que Monaco, avant que le championnat commence, on aurait pu penser prendre un point parce qu'historiquement, on a toujours fait des bons petits résultats à Monaco où on a eu
une bonne tenue.
Mais là, sur le championnat que fait Monaco-Nice et sur la série qu'on devait faire pour gagner des points, personnellement, et je pense que les techniciens n'avaient pas misé, n'avaient pas parié à gagner sur Monaco. Donc c'est pour ça, cette analyse de ce match-là, après comme disait Laurent, le plus dur c'est quand l'équipe lâche et que il faudrait pas arriver à lâcher et prendre autant de... C'est d'être plus solide, c'est essayer d'être plus solide pour la suite.
Georges Ristigoni, Monaco trop fort sur ce match?
Oui, trop fort, comme on dit Laurent et Ismaël. Cocher la case victoire sur ce match, je pense pas que ni Ciccoli ni les dirigeants avaient joué ce match d'avance. C'est bon, c'est après effectivement qu'on perde 2-0 ou 5-0, je dirais quelle importance. Moi, c'est le contenu qui était plutôt intéressant, c'est vrai. Avec les matchs précédents, la bonne première mi-temps, bon, un but au bout de 10 minutes sur une erreur de placement.
Bon, ça arrive, c'est arrivé à Nice aussi, le but au bout de 10 minutes.
Ouais. Bon, toujours, on est toujours un petit peu tendre, je pense, en début de match. Mais bon, après, je pense qu'il y a des raisons d'espérer, moi, quand même. Je voudrais pas faire le candide ou le naïf, mais bon, c'est... Je pense que ça arrive peut-être au mauvais moment, mais qui sait, peut-être au bon moment aussi. Hein.
C'est un peu paradoxal, parce qu'il y a quand même, j'allais dire, beaucoup. Il y a des points positifs dans ce match. Malgré le 5-0, il y a eu une heure de jeu qui était...
Oui, voilà, il faut retenir. Et quand on dit qu'on ne donnait pas Bastia gagnant à Monaco, il ne faut pas penser que l'entraîneur, les dirigeants et les joueurs partent dans le même état d'esprit que nous.
Oui, oui,
on est,
hein.
Oui. D'accord, il faut bien remettre les choses, parce que là, on est en train de dire que Bastia ne peut pas gagner à Monaco. Ce n'est pas vrai, parce que lorsqu'ils sont partis à Nice... C'était pareil et ouais. Ils ont fait un bon résultat, donc c'est, le football n'a pas de logique. Et là, sur ce match-là, j'ai du mal à pouvoir expliquer la réaction d'avoir lâché et de pas avoir essayé de tenir un peu plus longtemps.
Parce que dans ce match, Laurent, pendant une heure, 60, 65 minutes, etc., ça faisait que 1-0. Il y avait du jeu aussi de la part de Bastia qui est dans la continuité des bons matchs à Nice, d'une bonne partie contre Bordeaux, même la première mi-temps de Montpellier. Effectivement, il y a une continuité dans la progression du jeu du Sporting. Il y a eu cette heure-là qui est intéressante. Je sais pas si vous êtes du même avis, mais
pour ceux
qui étaient à Monaco, en tout cas, qui ont vu le jeu, et même si vous n'étiez pas, vous l'avez revu, même l'équipe de Monaco, à un moment donné, n'était pas non plus un super souveraine, Monaco. Non. Jardim lui-même dit qu'il y avait des joueurs fatigués. Et on sentait dans ce match, on a vu plusieurs remontées de balles bastiaises, qu'au milieu de terrain, il y avait quelques trous dans cette équipe de Monaco.
Surtout, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu des mouvements de très très belle facture. Le ballon revenant à l'intérieur, puis après on écartait, on fixait.
La frappe de Danique, la tête de Crivelli.
Voilà. C'est à ces deux mouvements que je songe plus qu'au poteau de Nangis. Vraiment, il y a eu des choses intéressantes et je me disais, je me prenais à rêver en regardant le match. Après, je me suis vite réveillé. Mais ce qui est plus gênant, c'est que Bastia n'ait pas pris des points auparavant. Et ce qui est plus gênant pour moi, c'est, on l'a vu à Bordeaux, contre Bordeaux, on l'a vu lors des précédents matchs. Effectivement, il y a des bonnes séquences. Effectivement aussi, il y a de bonnes animations offensives et des bonnes animations défensives, c'est-à-dire qu'on agresse vraiment le porteur du ballon, on défend en avançant par séquence. Et dans d'autres séquences, j'ai le sentiment que physiquement, le groupe plonge. Alors il y a beaucoup de blessés, il y a des joueurs qui jouent qui ne devraient pas jouer. C'est le lot de Bastia tous les ans. Bastia peut pas avoir un effectif avec 40 joueurs comme Monaco et changer comme ça. Mais quand on est confronté à des écuries comme Monaco, ça se ressent. Parce que Monaco, vous avez vu, ils ont fait tourner, ils font tourner en Coupe d'Europe et il y a toujours du talent. Le Sporting Club de Bastia et François Ciccoli ne peut pas le faire, ça. Et le Sporting Club de Bastia, sauf si un émir décide d'investir à Bastia, ce que...
On demandera aux dirigeants tout à l'heure.
Ouais, mais enfin bon, nous on s'y opposerait peut-être. Environnement. Donc Bastia sera toujours dans ce schéma-là. On tournera assez peu. Et pourtant, aujourd'hui, le football moderne demande que ça tourne beaucoup, beaucoup au niveau effectif. Et à un moment donné, physiquement, l'équipe le paye.
Allez, on va écouter l'entraîneur du Sporting après ce match, François Ciccolini. Comment lui, il a résumé, comment il a analysé cette rencontre.
Stonda Dourkine, l'Interbiste.
Je pense qu'on a fait une première mi-temps cohérente, même si on était mené au score. Et une deuxième mi-temps, on prend deux buts coup sur coup. C'était un véritable coup de massue aussi. Contre une équipe comme Monaco, ça pardonne rarement. Même si après, on a quand même lâché pour diverses raisons. Pour diverses raisons, parce qu'on avait beaucoup de joueurs en reprise. C'est comme ça. Il faut se remobiliser pour recevoir Metz samedi, rapidement. Ce troisième match, il était difficile et dur. Mais en prenant le deuxième et le troisième d'affilée, en seconde mi-temps, ça nous a fait vraiment du mal. Après, Abdelhamid est un peu court, Djikou est un peu court, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et tous les matchs sont importants pour nous parce qu'on est dans le dur, il faut s'accrocher. Le positif, c'est qu'Abdelhamid a eu un peu plus de temps de jeu et que Djikou aussi, voilà. Mais ils sont encore loin de leur niveau.
Georges Ristigoni, un Sporting, et un François Cicolini qui pour l'instant est obligé de composer parce que des compositions d'équipes les mêmes, enfin, qui se suivent, etc., au moins d'avoir un bloc, c'est difficile pour lui. Et surtout en défense, ça change beaucoup.
Je suis assez d'accord avec lui. Il fait avec ce qu'il a. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. On le disait tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas à leur poste. Il a moins de chances que les autres entraîneurs de puiser sur une réserve qui n'existe pas ou peu. Et bon, alors moi je pense pas que ça soit les compétences de l'homme qui sont à mettre en doute. Je pense que c'est un mec qui est honnête, je le trouve assez compétent. On a vu depuis le début du championnat pas mal de cadors, entraîneurs de Nantes, de Lille,
avec des profondeurs de banc.
Avec des profondeurs de banc, et ben ne pas résister à la Noël. Et alors c'est vrai que des fois on aimerait bien que le discours soit un peu plus positif, parce que quand il nous dit qu'il n'a pas pu faire pour certaines raisons, bon, il pourrait nous expliquer lesquelles, mais bon, on s'en doute tous. Mais moi je crois que, comme disait Laurent, on fait avec ce qu'on a. Alors c'est vrai qu'on joue avec nos qualités, on les connaît, les qualités du Sporting, tous, hein, et qu'à un moment donné, effectivement, on va peut-être retrouver un second souffle avec des joueurs qui vont retrouver leur place et qui vont pouvoir surtout faire des matchs pleins à domicile. Voilà.
Qu'est-ce qui a, entre guillemets, fait que Bastia a lâché, ou qu'est-ce qui a cloché pour vous sur cette...
Lâché, il explique, c'est que, bon, ils prennent un but l'un après l'autre. Voilà. Et donc ça, et son problème à François Cicolline, c'est que lorsqu'il a une ossature et qu'une équipe lui donne satisfaction dans le jeu, dans l'agressivité, où ils défendent, comme disait Laurent, ils arrivent sur le porteur, ils sont deux, eh bien, il a toujours des pépins, il a des blessés, des suspendus, et on n'a pas un banc assez large pour pouvoir faire tourner les effectifs. Des joueurs de qualité, on les a. À aujourd'hui, il faudrait qu'il ait cette chance d'avoir son équipe sur 3-4 matchs. Alors quand il arrive à les avoir, il y a la trêve internationale qui rentre en jeu. Les joueurs rentrent, donc il essaie de les faire souffler. Et une fois qu'ils sont bien, il y a un suspendu. Il a vraiment, vraiment la guigne.
Sébastien Skilacci qui n'est plus là aussi.
Skilacci après. El Kaoutari, dont on a vu les qualités, qui était...
Il est un peu court, mais on voit tout de suite, c'est un joueur de foot.
Compétition, qui s'est fait opérer. Voilà, ça fait quand même trois, sans compter les suspendus, Marange, puis Cahuzac, qui sera absent contre Metz. C'est vrai que voilà, la grosse difficulté, peut-être, elle est là.
Il a voulu s'appuyer, parce que ces joueurs-là, comme tu le dis, Laurent, c'est des joueurs de qualité, d'expérience. Hein, et donc, il essaie de s'appuyer dessus, mais ils sont un peu courts physiquement, et il n'a pas les moyens de mettre quelqu'un d'autre. C'est flagrant, il ne peut pas. Il fait du bricolage, comme il dit, je bricole, et à un moment donné, je ne sais pas si ça va toujours tenir, le bricolage.
Contre Monaco, ça tient moins.
Pour moi, aujourd'hui... Il y a beaucoup de supporters qui vont pas être d'accord avec moi, mais il n'y a pas encore le péril en la demeure. Il y a un match contre Metz. Si Bastia venait à l'emporter, il aurait 17 points. Il reviendrait sans doute autour de la 15-16e place. Ensuite, il resterait deux matchs. Il resterait deux matchs avant la trêve, Rennes et l'OM à Fouriagne. Pourquoi pas essayer de ravir une victoire sur ces deux derniers matchs, et Bastia aurait 20 points. Bon, je me projette, hein, je rêve. Hein. Mais je veux dire...
Ce serait l'objectif.
Voilà, oui. Mais je veux dire, c'est tout à fait réalisable. Points, et si Bastia parvenait à 20 points à la trêve, mais malgré tous les avatars que le club a pu enregistrer en ce début de saison, eh bien, il serait dans ses clous.
Alors, on a beaucoup parlé de... Forcément, quand on prend 5 buts, on pense qu'à la défense, il n'y a pas que ça. Mais on a quand même donné la parole aux défenseurs, surtout Axio du Sporting. Après ce match, on va commencer par Mathieu Pebernès.
Je sais pas, parce que je pense qu'on a été mieux qu'à Nice dans l'acte défensif. Après, c'est que soit on en prend 5, mais c'est pas la même équipe. Je pense que Monaco est beaucoup plus tueur et beaucoup plus réaliste que peut l'être Nice. Donc après, oui, c'était une défense qui était remodelée due à la suspension de Flo. Il y a eu le retour d'Abdé qui fait du bien parce qu'on aura besoin de tourner. Moi, j'ai joué les 3 matchs. On n'a pas beaucoup soufflé. Un effectif réduit, on aura besoin de tout le monde. Chaque année au Sporting, c'est toujours pareil. Mais je pense pas que ce soit un problème de défense centrale aujourd'hui. C'est l'équipe qui a failli en général. Donc, il faut se remettre tous en question et gagner contre Metz samedi prochain.
Ouais, Metz, c'est vraiment le match à pas louper là, vu la situation.
Vu la situation, non. C'est vrai que c'est chaque année on a un peu cette situation où il faut gagner ce match-là pour sortir de cette situation difficile. Il va falloir gagner Metz et gagner un autre match. Je pense qu'il faut qu'on gagne un peu pour nos supporters aussi parce que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné. On leur doit ça et pour nous ça nous sera du bien aussi.
Voilà les joueurs qui se projettent déjà évidemment sur Metz, on va en reparler tout à l'heure. L'autre élément central de cette équipe du Sporting, bon, il y avait Djikou qui a été décalé dans l'axe, et puis c'était la première titularisation au coup d'envoi de ce match d'Abdelhamid El Kaoutari. On l'écoute évidemment, il y a une grosse déception de sa part parce que c'était sa première pour lui au coup d'envoi et qu'il aurait aimé un autre résultat.
Stonda Dourkine, l'Interbiste.
Le score ne reflète pas le match, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu décevant, mais bon,
il y a un mélange d'erreurs de votre part, de quelques erreurs et de réalisme de Monaco.
C'est exactement ça. Donc on en est conscient. Maintenant, on va avancer, on va barrer les erreurs qu'il y a barrées, avancer. J'espère que ça va aller. C'est pris un gros coup de bonbon, c'est pris une grosse gifle surtout. Donc voilà, après, c'est comme ça, c'est quand des grandes équipes comme ça, on voit que c'est pas évident, ça pardonne pas surtout. Donc voilà, non, mais après, hormis le score, franchement, dans le jeu, on a été, je pense, plus que correct. Il faut garder ça, pour les prochains matchs.
Voilà, Abdelhamid El Kaoutari, donc réaliste évidemment, et sur le jeu fourni par les Bastiais, mais aussi sur sa performance. Il vient de rentrer. Vous jugez comment sur ce. Cette titularisation, là, cette première pour lui.
Elle est trop tôt, cette titularisation de El Kaoutari, mais on voit tout de suite que c'est un joueur de foot, quoi. Quand il frappe le ballon pied gauche, on voit tout de suite le toucher. S'il revient à 90% de son potentiel, qui était le sien, par exemple, du côté de Montpellier, le leader de défense qu'on a perdu avec Sébastien Skilac, on pourrait le retrouver.
Ismaël.
Oui, c'est pour avoir joué le poste. Voilà, c'est un joueur qu'on a suivi sur Montpellier, qui a énormément de qualité et qui a un pied gauche, on va dire, qui dépasse la moyenne. Moi, je suis persuadé que l'équipe là récupère petit à petit ses blessés, donc il va y avoir vraiment une ossature et il faut arriver à tenir jusqu'à la trêve. Et comme disait Laurent, de grappiller est important de gagner contre Metz. Voilà, pour moi, il n'y a pas de discussion. Oui. C'est Metz qui va déclencher ou qui va couler. Voilà, il n'y a pas.
À un moment donné, effectivement, on prend les matchs les uns après les autres, mais quand on avance, on arrive à la 17e journée, il y a des matchs qui deviennent un peu plus capitaux.
Non, mais c'est
capitaux
la palissade. On dit toujours, les joueurs, ils nous disent ça, c'est la palissade. Et là, en l'occurrence.
Là on ne pourra pas
là,
dire.
Il faut vraiment prendre le match de Metz et après on verra les autres.
Il y a des matchs références où ils peuvent s'appuyer, les techniciens et les joueurs, celui de Nice, celui de Bordeaux aussi, où on a vu un autre visage au niveau de l'agressivité, au niveau du jeu. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur ça, sur ces valeurs-là pour pouvoir exploser Metz. Parce que Metz, je veux dire, pour la suite, il ne faut pas qu'il gagne. C'est vrai qu'on demande 1-0, ça suffit. Mais pour rassurer les joueurs, il faut vraiment enfoncer cette équipe de Metz.
Metz, c'est 7e équipe à l'extérieur et Bastia est 17e à domicile. Donc ça ne va pas être une partie de plaisir. Mais Bastia aime ce genre de match à pression. Ça fait partie de sa culture.
Metz est dans un tourbillon un peu,
ouais,
un peu étrange avec ce qui s'est passé.
Je pense que c'est le match qui arrive au bon moment. Et puis j'ai l'impression que le discours, là, toutes les conditions sont réunies pour justement faire un gros match. Ouais. Et pour essayer de mettre les pendules à l'heure avec les supporters, avec tout le monde. Mais je voudrais dire une chose, c'est que, c'est une tout à fait personnel, mais j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des joueurs de football dans cette équipe qu'il n'y avait peut-être pas il y a un an ou deux ans. Il y a vraiment des joueurs de football. Alors, est-ce que la mayonnaise, elle met du temps un peu à prendre pour des tas de raisons, pour des retours de blessures, pour des mecs qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore foulé la pelouse de Fouriane. Je pense à cet attaquant
Cabral.
Je ne sais pas trop d'ailleurs pourquoi on communique pas un peu plus sur ce garçon.
François Tchicoïne a communiqué à la dernière conférence.
Alors, je ne l'ai pas entendu, excuse-moi Jean, mais je veux dire, il y a des joueurs de football et je reste persuadé que lorsque la mayonnaise va se faire, ça risque d'être intéressant, vraiment, avec un petit bémol. Moi, je trouve qu'au milieu, il manque une petite touche de création.
Sur les matchs comme ça, quand on s'attend à affronter une grosse équipe, la meilleure attaque d'Europe, évidemment, on pense surtout à renforcer, à pas partir à l'abordage, à garder ses arrières pour tenir le score. Et évidemment, on se retrouve avec un Enzo Crivelli à peine à Zolozol, c'est ce qui est arrivé. Bon, malgré tout, on l'a beaucoup vu, parce qu'il s'est battu énormément. Mais voilà, après, c'est toute la difficulté aussi, dans un match comme ça, de tenir en respect une équipe et d'essayer, entre guillemets, d'aller l'inquiéter, ce qui est arrivé en première mi-temps, puis après, voilà. Ça devenait peut-être un peu trop dur aussi.
Ce qui est intéressant, c'est que je pense que Metz va pas vraiment savoir comment Bastia va jouer. Ça fait 2-3 matchs qu'on joue à 3 derrière, dans l'axe, et ça veut pas dire grand-chose quand on joue à 3 derrière. Ça veut pas dire forcément qu'on va jouer la défense. Parce que si les deux latéraux jouent très haut, ça peut être très 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 offensif. Donc Metz peut être... Et François Tchicoline peut aussi changer et remettre Saint-Maximin à gauche. Il y a pas mal de solutions. Il a vraiment un bel éventail là devant lui pour ce match de Metz. Et je pense qu'il va chercher à surprendre son adversaire. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je voulais juste une petite question.
Oui, juste avant de terminer cette première partie, allez-y, Laurent.
Fouriane ne risque pas de suspension par rapport à ce qui s'est passé à Metz, non ?
Ah, on ne sait jamais. Peut-être le fait aussi que Jean-Louis Lec ait tapé une pièce de la tête.
Oui. Ah oui. Ouais, c'est tête plongeante. Insulte, tête plongeante, c'est interdit.
Après la bandera, il y a eu la pièce.
On plaisante.
Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. On termine cette première partie sur une note d'humour. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités, les dirigeants du Sporting.
Senza impiego, cercate una formazione, a collettività territoriale di Gorsica, mettinando a formazione in settori d'attività diversi. Demandeur d'emploi, la CTC vous aide à vous former. Santé, agriculture, hôtellerie, restauration, tourisme, artisanat, commerce, bâtiment, date vorze e vostre competenze. Renseignements sur le site corse.fr.
RCFM et la mairie de Bastia vous invitent à un concert exceptionnel le jeudi 15 décembre au centre culturel L'Albor. Vidalba, Diana Saligetti, Feli, Isurgianti, Francine Massiani, Diana Dillalba et la participation de Raph et Max. Gagnez vos places en écoutant RCFM ou en jouant sur bleurcfm.corsica.
Bojinkampu, Banina Bourez.
Bojinkampu, a nostra emissione Misinka, e cu terzo numero, che noi registriamo a un spazio Natale Ugiani in Corti. Baspitemo, stu marco riusette di dicembre, tocca a 6 ore e mezzo, saremo godian Federico Terrazzoni da scopre a sua opera. Vigina a noi, all'anno di meglio, e pareti studianti. Vieni da sparte conosco, un'ora e mezzo di ganti, contrasti e poesie, cu laudore Gian Federico Terrazzoni.
L'application mobile France Bleu est faite pour vous. Pour emporter RCFM partout avec vous, pour réagir aux émissions, s'informer, se divertir, téléchargez dès maintenant l'application mobile France Bleu.
Deuxième partie de cette émission, Standard Ourcine, assez tout de suite avec notre jeu.
Origal et à Standard Ourcine.
Et au régal, où il faut répondre à cette question avant de l'obtenir, c'est la panoplie du Sporting à gagner ce soir. Quel est le dernier résultat positif obtenu par le SCB à Monaco? Nous, on dégage le 5-0. Nous avons un gagnant en ligne, je crois qu'il s'agit d'un Ange Geronimi de Bigoul, il y a Bonazer.
Oui, c'est ça, Niulinko, bonjour.
Et Niulinko, vous aussi.
Bon, la dernière victoire. C'était en championnat, c'est en 2012, Bastia avait gagné 1-0, et c'est la demi-finale de la Coupe de la Ligue, qui a gagné au tir au but.
Bon, très bien, nous on avait parié juste sur la demi-finale, vous en avez mis deux, comme ça, ça nous gonfle un peu d'optimisme. Voilà, merci beaucoup. C'est Demi Cabarente, que vous présidentez au Sporting, non?
Non, je m'en mère.
Ah, quand même, oui. L'un de vos administrés, vous savez qu'il est là.
Mais je t'attends,
hein. Oui, il m'ascolte. Vous pouvez débarrer là,
ça va.
Tu vas jouer. Tu vas jouer, va bien. Ça va, il faut que ça va doser, hein.
Merci.
Voilà.
Et bon à zéro.
Allez, Ange Gérard, et donc qui a gagné ce lot, la panoplie des supporters, du supporter du Sporting. Vous pourrez venir le chercher dans nos locaux offerts par RCFM et évidemment le Sporting Club de Bastia et les boutiques du Sporting. Et on remercie au passage René-Paul Salducci. Subidawa in nostri invidati.
Stondadurkina, l'invidato.
Voilà, évidemment, on avait préparé tout ça, Pelle Imbidad, c'est exceptionnel qu'on en ait deux. Ce soir, deux invités, Pierre-Marie Gérolimi, président du Sporting, et Joe Franceschini, vice-président. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir, plaisir.
Merci d'être avec nous, c'est bien d'être là.
Toujours.
À un moment où voilà, Bastia sort d'une lourde défaite, d'une série de matchs, non pas difficiles, parce qu'il y en a eu des matchs intéressants, il y a eu de bons résultats aussi, mais d'une période où le Sporting ne gagne pas, ça fait 9 rencontres à peu près, un peu plus de 2 mois. On a eu beaucoup de joueurs qui sont venus s'expliquer, évidemment, on a eu le staff technique, donc c'est bien de vous avoir pour connaître un peu la situation à l'interne de ce Sporting Club de Bastia. D'abord, pour rester dans la continuité de notre première partie d'émission, ce match de Monaco, comment vous l'avez vécu? Alors, vous l'avez vécu de deux façons différentes. Joe Franceschini, qui accompagnait l'équipe sur le stade Louis II à Monaco. Vous, Pierre-Marie Gérolimi, qui êtes resté chez vous devant la télévision. Mmh. Est-ce que les visions sont différentes?
Non, parce que de toute façon, à la fin, il n'en reste que le résultat. Maintenant, le résultat, vous en avez évoqué tout à l'heure un peu toutes les raisons, toutes les explications. Mais je pense qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que Monaco, c'était quand même... Non seulement c'est une très bonne équipe, mais ça vous l'avez dit, mais Monaco, c'était quand même un troisième match en 6 jours. Même pas en 7, en 6 jours. C'est-à-dire qu'on avait joué dimanche mercredi, seul, samedi. Sur ces 3 matchs, on a rencontré le premier, parce qu'on a rencontré Bordeaux, je crois qu'ils étaient 4e ou 5e ou 6e. Et là, ouais. On terminait un cycle de 3 matchs en 6 jours, contre ce qui est aujourd'hui probablement la meilleure équipe en France, qui est première de son groupe en Champions League et qui est la meilleure attaque d'Europe. Moi, je pense que sur ce match-là, en tout cas, j'ai eu François de suite après le match. On s'est écroulé, oui. On s'est écroulé à partir de la 70e, je crois. Je pense que le problème était avant tout physique. Et non seulement c'était un troisième match en 6 jours à Monaco, mais en plus, avec 2 joueurs derrière... Alex, ça faisait 100 jours qu'il ne jouait pas, et Abdelhamid, je crois que ça faisait 240 jours qu'il ne jouait pas, ou en tout cas, n'attaquait pas un match. Maintenant, le score est là, il est lourd, c'est sûr que ça fait mal à la tête. Vous avez parlé de Enzo tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, mais Enzo n'a pas joué le mercredi. Et encore une fois, je pense que sur ce match-là, la preuve, le dimanche d'avant, beaucoup n'osaient pas espérer un résultat positif à Nice, et pourtant, on l'a fait, mais c'était le premier match de cette série. Alors, ça ne constitue pas, bien sûr... l'excuse, mais bon, il faut quand même insister sur le fait qu'aujourd'hui, le club, il faut le dire, le club n'est peut-être pas équipé pour enchaîner 3 matchs de très haut niveau sur une période aussi courte. On parle d'un match toutes les 48 heures.
Contre 3 des 6 premières équipes.
Contre 3 des meilleures équipes du championnat de France, en particulier Nice et Monaco. Lorsqu'on voit jouer Nice hier soir à la maison, parce qu'on sait le match qu'on a fait, je reviens un peu à ce que disait Georges, on a vu de très bonnes choses, mais je pense qu'à Monaco, nous n'avions pas toutes nos armes.
Joe Franceschi, prise directe avec l'événement, on a moins de recul, évidemment.
Moi, j'étais sur place, mais c'est sûr que je vis l'événement de plus près, parce que je suis auprès des joueurs, je vois leur comportement, je vois leur attitude, et je ne les ai pas trouvés... peureux à l'entame d'attaquer un match comme ça, donc moi je les ai sentis.
Mais sur ça, il y a eu un changement depuis 4-5 matchs.
On pouvait être confiant.
D'état d'esprit à un moment donné, il a changé.
Exactement, on pouvait être que confiant, et sincèrement, moi je l'étais. Alors, on peut être un peu trop optimiste à par moment, mais effectivement, le seul bémol, c'était que c'était Monaco. Voilà, la réalité, elle est là. Pierre-Marie l'a bien précisé. Je pense que, sincèrement, on le saura jamais, hein, mais on aurait joué une autre équipe que Monaco, c'est-à-dire de mieux de tableau. Je suis pas sûr qu'on ait pas fait un résultat, parce qu'on enchaînait 3 matchs, c'est vrai, à 3 jours d'intervalle, mais je pense qu'on a enchaîné 3 matchs de très bonne qualité. que ce soit Nice, Bordeaux, on est de très bonne qualité. On l'a vu dans le jeu, ça s'est ressenti. Si on fait l'analyse des matchs, on s'aperçoit vite que par moment, sans rentrer dans le détail technique, par moment on est un peu trop bas, on subit, mais dès qu'on est un peu haut, et je rejoins Laurent à un moment donné qui l'a précisé, dès que nos latéraux sont un peu plus hauts, on est mieux dans le jeu et on fait mal à l'adversaire. Donc, je veux dire, on a enchaîné de très bons matchs. Et effectivement, c'était Monaco. Voilà. Donc, si on prend le match, si on s'aperçoit que dès qu'on prend le premier but, on s'est dit, il faut attaquer, on a joué un peu plus haut, et on s'est aperçu qu'on les a mis en grande difficulté. Tout Monaco qui sont. Mais ça reste Monaco, et effectivement, à un moment donné, on paye cash des erreurs.
Messieurs, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on peut aller peut-être contre certains du côté des supporters, on s'inquiète toujours, évidemment, on est en bas de tableau, on est 18e, on est barragiste, on arrive presque à la fin des matchs aller. Il y a une inquiétude qui, quelque part, est légitime et normale quand on est en bas de tableau. Est-ce que vous, de l'intérieur, malgré tout, vous êtes un peu plus optimiste parce que vous savez des choses que peut-être on ne sait pas?
Vous savez, on part de choses qui sont extrêmement, je dirais, nous on vit au quotidien, je vis au quotidien avec José, avec le staff technique, avec les joueurs. Et encore une fois, je reviens à ce que disait Georges tout à l'heure, on peut pas pratiquer du jeu comme on l'a fait, faire des matchs, ou en tout cas des morceaux de matchs, ou des mi-temps, comme on les a fait contre des équipes qui aujourd'hui sont très bien classées. À un moment donné, ça va payer. Ça va payer. Aujourd'hui, on espère que nos blessés vont revenir, on espère qu'on aura moins de suspendus, on espère que la chance va tourner. Je crois qu'on a tiré 10 ou 11 fois sur les poteaux ou les transversales. Alors tout ça, bien sûr, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est barragiste, c'est qu'on a pris 5 à Monaco, et c'est que le peuple bleu est inquiet. Et c'est légitime. Mais c'est à nous aussi de passer le message que oui, c'est difficile. Après, rester en Ligue 1, évoluer en Ligue 1, qui reste le très haut niveau, c'est difficile, et encore plus pour Bastia. Maintenant, on l'a démontré ces quatre dernières années qu'on avait notre place en Ligue 1. Il n'y a pas de raison que cette année ça ne le fasse pas. Je reviens aussi sur le fait qu'à Monaco, on se plaint. Alan n'était pas là. Et Alan, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il tient une place importante, offensivement, au milieu.
On peut le critiquer parfois quand il y est, exactement. Mais on s'aperçoit quand il n'y est pas.
Il a beaucoup d'abattage. Donc voilà, à Monaco,
quand il est sorti contre Bordeaux, d'ailleurs.
À Monaco, on avait rien pour nous. Voilà. Ouais. Maintenant, honnêtement, et de manière très sincère, de l'intérieur, on n'a pas cette inquiétude, parce qu'on sait qu'on peut compter sur un groupe de qualité, sur des joueurs de qualité, sur un groupe qui a complète confiance en son staff technique. Et pour avoir eu François après le match, on est confiant. Maintenant, le match de samedi, il est important, très important, parce que je suis certain que si on bat Metz samedi, nous ne perdrons plus jusqu'à la trêve. Ça, c'est un avis personnel. Mais voilà. Mais le match de samedi est très important. Maintenant, il n'y a pas de raison, avec ce que l'a montré sur les matchs précédents, avec des périodes de récupération normales. Si on aligne notre meilleure équipe, Cahu ne sera pas là, encore une fois, on n'arrive jamais. Mais il n'y a pas de raison que Laurent le disait, on a toujours abordé ces matchs à pression avec de bonnes manières, et avec l'aide du public et de nos supporters, parce qu'ils sont inquiets, mais il faudra venir au stade samedi et...
Vous qui connaissez encore les joueurs. La commission de discipline, José, oui. M'arrange, il va prendre un match ou plusieurs?
Mais au vu du rapport de l'arbitre, il risque justement d'en prendre deux.
Donc, c'est ce que je dis. Parce que l'arbitre va discuter en off avec.
Non, mais l'arbitre dit que lui, au vu des images, il aurait
c'est ça
pu
qui m'inquiète.
Mettre en danger.
Il écrit exactement qu'il y a une semelle de haut en bas. Donc, qui est assimilé à du jeu dangereux. Et donc, les règlements sont très clairs à ce sujet. C'est deux matchs. Maintenant, sur l'expulsion de Cahu, le règlement était les mêmes et le joueur n'avait pris qu'un match. Donc, on espère. Avec les images qui seront à disposition de la commission de discipline, que Florian ne prendra qu'un match.
Alors, vous avez fait référence tout à l'heure au peuple bleu. Il y a une inquiétude légitime. En même temps, vous l'avez rassuré. Si on bat Metz, Bastia ne perdra plus jusqu'à la trêve. on croise les doigts évidemment.
On va dire que je l'espère, Jean. Allez.
Pour l'instant, pour l'instant, l'inquiétude est liée. On a un répondeur dans cette émission où les auditeurs peuvent laisser leur avis, leurs questions sur les matchs. Évidemment, quand on annonce que les dirigeants sont là, il y a beaucoup plus d'appels et des questions qu'on pourrait poser à un joueur. Donc, on va les écouter. Chinepet tout au monde, entraîneur et président de Jogador. Donc voilà, mettez votre casque et prenez vos patience. On y va.
Deux questions, c'est tout. La première, pourquoi on a recruté un garçon Cabral qui a fait un seul match qui a été excellent sur son aile droite? Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est que ces histoires de mettre toujours ce Diallo au milieu de terrain alors que vous avez, on sort des types comme Danich? Bon, il faudrait quand même que les dirigeants nous donnent quelques explications concernant tous ces trucs-là.
Depuis la blessure de Sébastien Skilac, nos chers dirigeants n'ont pas recruté un défenseur central de métier. On s'aperçoit qu'on prend des buts dans l'axe. Montpellier, égalisation, parce qu'il manque un défenseur central de métier. Contre Bordeaux, parce qu'il manque un défenseur central de métier. Et sur Monaco, trois buts sont du fait de l'absence d'un défenseur central de métier.
Quand le Sporting va mal, on va mal. Il ne faut surtout pas les lâcher, il faut les soutenir. On va s'en sortir, Emir Durkini. Forza.
Même la Sainte-Vote était contre nous, pourtant le jumelage avec la ville de Luciane aurait pu faire quelque chose.
Je suis un supporter de Bastia, archi déçu. J'espère que vous allez aborder le problème de l'entraîneur et surtout des dirigeants qui apparemment ne bougent pas. Je vois que dans tous les clubs ça bouge, sauf chez nous, y compris les supporters. J'ai l'impression que tout le monde dort.
Moi je pense que contre Metz, il va falloir créer une mobilisation en général, quelque chose d'extraordinaire. Les choses qui ont toujours fait que le Sporting s'est toujours ressorti grâce à des mobilisations de ce genre. Qu'on aille vers l'avant parce que ça devient trop pénible et voire dangereux. Faut savoir se dire.
Voilà donc pour un résumé de ces quelques avis. Il y en avait beaucoup d'autres. On remercie évidemment tous les auditeurs qui appellent pour donner leur avis et on les prend volontiers. On a résumé dans cette synthèse et puis il y a des questions qui vont venir. Si on les reprend un peu, bon, il y a un domaine un peu sportif, peut-être sur lequel vous répondrez pas forcément quand on vous dit pourquoi Cabral joue pas, pourquoi Diallo joue.
Aujourd'hui, c'est encore le coach qui fait l'équipe. On fait, je l'ai dit tout à l'heure, le coach a la confiance du groupe. Il a la confiance du groupe.
Puis le coach répond à toutes ces questions.
Hein. Et il a la confiance des dirigeants. Donc aujourd'hui, François Cecolini, il est l'entraîneur, c'est l'entraîneur principal du Sporting de Bastia. Je reviens encore une fois sur ce qu'a dit Georges tout à l'heure, c'est un excellent entraîneur. Si vous discutez avec les joueurs aujourd'hui, je peux vous assurer que François n'est en aucun cas responsable de quoi que ce soit. Après, il ne fait pas jouer Cabral. Il fait jouer Sadio. Ça, ce sont ses choix. Il faut les respecter. C'est un entraîneur intelligent. Et encore une fois, on fera un premier bilan à la trêve et on fera un autre bilan au mois de mai prochain. Sur l'aspect, je veux vraiment revenir sur, je veux dire, entre guillemets, l'affaire du défenseur central.
Ah voilà, parce que les questions, allez, suivre ça vous
parce
ça,
qu'il y a
15
jours, vous étiez là aussi, j'écoutais l'émission et j'avais envie de prendre mon...
Ah, vous auriez dû.
je veux juste, alors, après, si on met le match de Monaco, mais on va me dire, il y a eu Monaco, très bien. Il y a eu Monaco, on a donné toutes les explications, 3 matchs en 6 jours, la meilleure équipe d'Europe, la meilleure attaque, 2 défenseurs centraux qui rentrent depuis 100 jours et 240 jours. Jusqu'à Monaco. Bastia, c'est la 7e défense du championnat de France. Et à un but près, je crois que c'est la 5e ou la 4e.
Ça, c'est la 5e.
C'est clair.
Avant le match de Monaco, c'est la 5e.
Moi, je veux bien. Aujourd'hui, oui, François nous a demandé un défenseur central.
C'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes pas
François nous a demandé un défenseur central. On a l'habitude d'écouter nos coachs. Aujourd'hui, on a le droit de faire un joker ou un chômeur. Donc, il faut trouver un défenseur central qui soit chômeur, mais qui peut nous apporter quelque chose.
C'est le niveau.
Il n'y en a pas. Ou il faut trouver un défenseur central évoluant en France, qui veut bien venir chez nous et qu'un club veut bien nous prêter.
Et après, dans votre réflexion, vous réfléchissez pas à plus tard aussi.
Et il n'y en a pas non plus.
Non, je veux dire, en disant, tard, si tard. Je prends un défenseur, il y en a encore
je vais y arriver, Laurent.
Abdelhamid revient. On l'a souligné ici.
Abdelhamid va revenir.
Mathieu est là. Flo a montré qu'il peut jouer dans l'axe gauche. Alex a démontré qu'il peut jouer dans l'axe, même si aujourd'hui c'est un très jeune joueur et qu'il a ses marques côté droit.
Il était formé dans l'axe.
Maintenant, on n'est pas buté et on en parle tous les jours avec le coach. Si le coach maintient sa volonté de voir entre guillemets toujours débarquer un défenseur central, si on trouve un joueur qui est capable de nous apporter quelque chose, parce que c'est pas tout de faire un défenseur central, il faut que ce joueur il soit capable de nous apporter quelque chose, il faut qu'il soit capable de temps en temps de comprendre le fait qu'il y a Mathieu, il y a Abdelhamid, il y a JQ, et que donc il va pas être tout le temps titulaire.
Donc ça veut dire que vous ferez le point après à la fin des matchs aller.
Non, le point on le fait mercato. Aujourd'hui, on cherche un défenseur central depuis maintenant plusieurs semaines. Nous ne trouvons pas de défenseur central qui aujourd'hui va nous amener clairement quelque chose. C'est tout. Maintenant, je vois François tous les jours, on en reparle tous les jours. Il y a une période de mercato qui bien évidemment est plus facile à gérer. Pourquoi ? Parce que là, on peut recruter n'importe quel joueur, c'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas chômeurs, des joueurs qui ne seront pas jokers, on peut les prendre au Portugal, en Amérique du Sud, voilà. Donc on aura une palette de choix qui sera bien plus large. Donc aujourd'hui, encore une fois, effectivement, l'effectif, le 21 décembre au soir, on se réunira, ou le 22 au matin, on fera le point. S'il y a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, que François ne fait pas beaucoup jouer, et qui viennent nous voir en disant « bon, on ne joue pas beaucoup, on voudrait te prêter, on voudrait partir », on fera ce qu'il y a de mieux pour le club.
Avec un œil extérieur, si je peux me permettre, c'est vrai que quand tu vois l'équipe telle qu'elle est, tu te dis qu'il y a une abondance de défenseurs quand on raisonne à l'ancienne. Et Ismaël est là. Bon, maintenant, il y a les stoppeurs pied gauche, les stoppeurs pied droit. Bon, là, il y a pléthore il y a pléthore de défenseurs. Maintenant, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, d'avoir quelqu'un qui crée un peu. Alors, il y a un bon qui est blessé.
La réflexion.
Parce que je le suivais l'année dernière.
Boulaya. Très, très, très bon joueur.
Il en est où, Boulaya?
Boulaya, il reprendra, pour tout vous dire, aujourd'hui, il a vu son chirurgien. Les contrôles, les radios de contrôle, les examens de contrôle, a priori, sont très bons. Donc, on pourra compter sur Boulaya, sur Farid, probablement, à la reprise, après la trêve. Mais c'est, vous savez, lorsqu'on voit lorsqu'on voit Falcao l'autre soir.
Rentrer dans le groupe.
Lorsqu'on voit Falcao l'autre soir.
Qui était perdu pour le football.
Il est resté blessé un an.
Ouais. Il a mis 3 ans à venir.
Il a mis un an. En général, on reste blessé 6 mois, on met 6 mois. On reste blessé 3 mois, on met 3 mois. On reste blessé un an, on revient. Ouais. Farid, c'est un très jeune joueur. Il est resté blessé très longtemps. On va pas mettre sur les épaules de Farid Boulaya le devenir du Sporting ou le maintien du Sporting.
On l'a dit, c'est un bon pari. Parce que de toute façon, s'il n'était pas blessé, Bastia n'aurait pas pu l'acheter.
Juste une précision. Amener un peu quelques réponses aux questions que tout le monde se pose. Dans un groupe professionnel, il y a 22, 23 joueurs. Bon.
À la demande des coachs.
À la demande des coachs, évidemment.
Qui ne veulent pas de groupe
aujourd'hui,
très, très élargi.
Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas un club, je dirais, fortuné pour pouvoir se permettre, comme certains grands clubs, d'avoir 30 et 40 joueurs. Et après, ils font le tri là-dedans. C'est-à-dire qu'ils en prêtent une partie, ils en gardent une partie. Bon. Mais les stats sont claires. Qui joue dans un groupe aussi restreint, qui joue tous les samedis, je dirais, c'est toujours les 13 ou 14, les mêmes, que ce soit au Sporting ou ailleurs, quand on a un groupe restreint. Et effectivement, il se trouve que dans les 22, il y en a toujours 5 ou 6 qui font le banc ou qui jouent pas. Cabral, aujourd'hui, il était dans les joueurs qui faisaient partie du groupe des 22. Il n'était pas, à la base, parti pour être un titulaire indiscutable. Aujourd'hui, François ne le fait pas jouer, mais fait partie aussi, mais fait surtout partie d'un groupe de 22, et c'est un joueur de qualité. C'est pas parce qu'il joue pas que, je veux dire, à un moment donné, on pourra pas se servir de Cabral. Maintenant, effectivement, derrière, il y a le joueur, et ça, ceux qui ont joué au ballon le comprennent. Un joueur n'a pas envie de rester sur le banc, n'a pas envie de faire banquette. Donc, à un moment donné, il a envie de jouer, il a envie de s'exprimer.
Ce qui est
donc,
normal.
Effectivement,
il va partir au mercato.
Non. Je dis qu'effectivement, à un moment donné, il a peut-être envie de pouvoir aller voir ailleurs.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le coach?
C'est pas nous qui allons décider.
Quand il dit, et d'ailleurs, il dit collectivement, parce que je sais que vous recrutez collectivement avec Pierre-Paul Antoniette, le staff et les dirigeants. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit le club s'est trompé en recrutant Gerson Cabral?
Mais non.
Laurent.
François Ciccolini, il a dit.
François Ciccolini a dit qu'on s'est trompé et il a rajouté.
C'est possible.
Comme le font beaucoup de clubs avec beaucoup de joueurs.
Bien sûr.
Mais Gerson Cabral, il a été recruté, il a été validé par le sportif et il a été validé par le financier.
C'est ce que je viens de dire.
Le financier, aujourd'hui, vous croyez qu'il est content et le financier, en plus, il a fait des efforts. Donc, est-ce que vous croyez que le financier, aujourd'hui, il est content de voir un joueur qui, quand même, lui a coûté un peu d'argent faire banquette ou en ce moment
J'imagine.
Mais malgré tout, le patron aujourd'hui, c'est François Ciccolini.
J'imagine. Voudriez que c'est un actif qui soit mis en valeur.
Mais nous, on veut rien. Nous, on veut juste que aujourd'hui, on gagne des matchs, non seulement à Fouriane, mais aussi à l'extérieur. Et on veut. Et c'est la volonté première de François. Il y travaille tous les jours. Et croyez-moi, François, je le vois, il arrive le matin, il part en fin de matinée, il revient l'après-midi. On travaille tous pour que le Sporting soit encore en Ligue 1 à la fin de l'année. Maintenant, il y a qu'on ne maîtrise pas,
comme l'a dit Anouk. Juste une précision. Moi, je ne connais pas d'entraîneur qui ne fasse pas jouer un joueur qui mérite de jouer. Déjà, ça, c'est un premier point. Deuxième point, Sadio Diallo, sur lequel tombent toutes les critiques depuis plusieurs mois. Moi, je suis désolé, je donne mon avis aussi. C'est un joueur fantastique qui n'est pas à son niveau en ce moment, qui a pas joué depuis beaucoup de temps. Il va mettre du temps à revenir. Il n'est pas en confiance. Il faut que ça joue aussi autour de lui, mais quand il n'est pas là, ça se ressent aussi. Et la création qu'on demandait tout à l'heure, lui, il est capable de la porter. Et quand vous discutez avec tous les joueurs, ils vous disent tous que Sadio Diallo à l'entraînement, c'est un super joueur. Alors, beaucoup vont me rétorquer, il y a des joueurs d'entraînement et des joueurs de match. Moi, je crois que Sadio Diallo, ça peut redevenir un joueur de match. Maintenant, c'est aussi un pari. Et sur François Ciccolini, je suis désolé, mais quand on connaît un petit peu le football, on regarde le début de saison, c'est quelqu'un qui a fait 5 ou 6 dispositifs, plusieurs animations. Il y a quelque chose chez cet entraîneur. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Après, c'est une affaire de beaucoup d'aléas, le football. Non, mais je pense que c'est un entraîneur intéressant.
Non, mais surtout que, je veux dire, quand on regarde les entraîneurs du championnat de France, pour moi, le numéro 1, c'est l'entraîneur de Nice, Lucien Favre. Mais tous les autres, quand on s'intéresse un peu, on les découvre. Ouais. On les découvre, donc, il est de chez nous, c'est un type qui a tous les diplômes. Bon, après.
Qui
est très fort tactiquement, qui a fait ses preuves dans d'autres clubs.
Qui a fait de la formation.
Et puis ailleurs, notamment à Monaco. Je veux dire, moi, ce qui me gêne un petit peu quand on discute de ce garçon-là, c'est que. Alors souvent, on se réfère à une attitude,
toujours dans les excès. C'est même,
voilà, mais c'est les excès. Après, c'est normal que les supporters soient mécontents.
Non, mais après, les supporters, ils peuvent aussi soutenir un entraîneur de chez nous aussi. Hein, voilà. C'est possible. Hein,
C'est possible. On a vu.
Parce que les supporters qui vont au stade. Vocifères, critiques et tout ça, pas de problème. Ils payent leur place, ils sont abonnés. Mais ceux qui restent en ville le soir des matchs, on a plus de mal à l'accepter.
Bon, nous, on va faire référence aux supporters, on va passer à notre chapitre, et ça, on peut l'entendre aussi. Il y avait un auditeur qui appelait à créer quelque chose, un mouvement, un engouement pour le match de Metz, parce que, évidemment, ça apparaît, comme on le disait tout à l'heure, les matchs passent, même si on dit qu'il en restera encore beaucoup. Celui-là, et vous le disiez vous aussi, Pierre-Marie Giron, apparaît quand même comme un match charnière qui peut donner cette bouffée d'air et terminer l'année et préparer Noël de la meilleure des façons. Est-ce qu'il est envisagé quelque chose en dehors de dire aux supporters venez nous soutenir? Parce qu'on a vu malgré tout, Pierre-Marie et Jo, que ces derniers temps, il y a une certaine désaffection. On l'a vu contre Bordeaux, pas beaucoup de monde. On a entendu des sifflets aussi.
Je reviens sur Bordeaux.
Non, mais on parle par rapport à la situation du club nécessite.
Mais, d'accord, mais Bordeaux, c'est un match.
Serrer les coudes.
Un mercredi.
Non, mais ça,
à 19h.
Donc, avec les embouteillages, les intempéries.
Avec les premiers froids, avec les ceci, avec cela. Lorsqu'on voit Nice hier soir, qui est premier du championnat, qui joue dans un stade à 45% plein, voilà. Et c'était la même chose hier à Marseille. Nice, on a besoin de nos. Maintenant, on va pas discuter des. On a besoin de nos supporters. On aura besoin de nos supporters. Depuis plusieurs matchs, on a mis des opérations en place.
Dans un match comme ça, le public en nombre et bruyant est important.
Mais ce sera au-delà, il y aura l'équipe, les 11 joueurs sur le terrain, il y aura le staff sur le banc de touche et il y aura surtout, j'ai envie de dire, notre public et nos supporters. On a mis en place depuis plusieurs matchs des tarifs réduits. On avait invité, c'est une anecdote, mais il faut savoir que pour Bordeaux, nous avions invité 2000 gamins sur 15 ou 20 écoles de football. il n'en manquait pas un seul au stade.
Ouais.
Donc, lorsqu'on parle de désamour, lorsqu'on a réussi à faire venir un mercredi à 19h, 2000 gamins, leurs éducateurs, des parents, le Sporting n'est pas en désamour.
Après,
il n'est surtout pas en désamour.
On va parler de désamour, on va parler de désaffection.
Mais la désaffection, Jean, hier soir, encore une fois, mais ça me gêne parce que je veux pas. On a vu que par exemple lorsqu'on fait des tarifs spéciaux, ben les gens viennent. Il faut pas oublier que là c'est la période de Noël. Il faut pas oublier que les temps sont durs pour tout le monde. Voilà, et qu'aujourd'hui le football ce n'est peut-être pas la préoccupation première de milliers, de milliers, de milliers de Corses. Alors, on a la chance de compter sur un noyau qui est quand même dur, 7500, 8000 personnes. Mais c'est évident que sur le match de samedi, et je lance encore un appel, ben on aura besoin de notre public et de nos supporters. Les tarifs seront encore réduits, il n'y aura pas de quotas sur les demi-tarifs, les enfants sont toujours invités.
L'abonné avec un invité à 1 euro.
À partir de Marseille, on va remettre en vente des carnets d'abonnement sur la seconde partie de saison à 30 euros et à 50 euros. On essaie de mettre en place des outils pour reconquérir notre public et nos supporters.
Si vous voulez reconquérir, c'est qu'il y a une petite désaffection.
Mais moi, ce que je dis, c'est que s'il y avait une désaffection qu'à Bastia, me poser la question de savoir pourquoi il n'y a qu'à Bastia où les gens ne viennent pas au stade.
Il y a plein de paramètres.
Mais encore une fois, on l'a déjà dit ici, il y a des causes locales, oui, on en est conscient, mais il y a aussi des causes qui sont un peu plus générales, un peu plus globales.
Plusieurs paramètres.
Il nous reste juste deux petites minutes. Sur le répondeur, il y a eu des questions. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux aussi qui vous interrogent, vous également, qui vous demandent de prendre vos responsabilités. Vous recevez comment toutes ces critiques? Parce que ça vient de tous les côtés.
Vous savez,
juste une petite minute. Aura le temps de dire.
Genre, nous, aujourd'hui, on retrouvera la trêve. Notre seul objectif, c'est de maintenir le club au niveau où il est. Moi, j'aurais aimé que tous ces commentaires et j'aurais aimé que tous ces gens qui aujourd'hui veulent arriver aux responsabilités, veulent arriver aux affaires, se soient manifestés il y a 6 ans lorsque le club était en dépôt de bilan, était en cessation de paiement, où il n'y avait plus rien, on était condamné au football amateur et que là, il y a quelques personnes qui ont osé dire « bon, on va y aller ». J'aurais bien aimé que tous ces gens-là... Alors bien sûr, aujourd'hui, entre-temps, il y a eu un titre de champion national, un titre de Ligue 2, 4 années de Ligue 1 où la plus mauvaise part, je crois que c'était 12e. Cette année, on est encore en Ligue 1.
Une finale
de la Coupe de la Ligue. Je pense que si on fait le bilan des clubs de Ligue 1, le bilan du Sporting Club de Bastia, il n'est pas si mauvais que ça. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile de reprendre en main un club de Ligue 1 qui est bien établi, qui aujourd'hui a embauché plusieurs dizaines de personnes, qui de 4,5 millions de budget est monté à 30. C'est facile. Moi, j'aurais aimé, et je le dis très sincèrement, que tous ces gens-là, lorsqu'on a levé la main à 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9, il y en a eu d'autres. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On a toujours dit que les portes étaient ouvertes, que les apporteurs de projets étaient les bienvenus, à condition que ce soit de vrais projets et à condition que ce soit des gens qui apportent vraiment quelque chose pour l'avenir de ce club. Mais en tout cas, aujourd'hui, très franchement, humainement, bien sûr qu'on est touché parce que ça touche nos familles, mais notre objectif premier, c'est le club, c'est de protéger nos joueurs, notre staff technique, nos supporters, notre public, le club.
Merci Pierre-Marie Gérolle.
Voilà. Merci à vous.
Question qu'on doit vous poser. Merci d'être venu. Merci Jean-Franceschi.
Merci
à tous nos invités. Et à prossima Stonda Durkina. Ce sera pour lundi prochain. Merci beaucoup. Tout de suite.